Time 2016. Suntime, une émission préparée et présentée aujourd'hui par Jacques Ribière. Avec la présence de Alain Réjou, notre président. Jacques, bonjour.
Bonjour Martine.
Alors aujourd'hui, sa clarinette.
Eh oui, c'est la clarinette aujourd'hui.
C'est la clarinette de la Nouvelle-Orléans.
Voilà.
Et d'autres émissions suivront, il va y avoir, il y a de la matière.
Il y a de la matière en réserve, notamment pour la rentrée.
Ah oui, alors on y va.
Eh bien, donc j'ai choisi aujourd'hui de vous parler des clarinettistes de la Nouvelle-Orléans, car c'est à la Nouvelle-Orléans qu'est né et s'est développé le premier style de clarinette dans le jazz. Tout semble partir d'une famille de clarinettistes, les Tio. Le premier, Antoine Louis Papatillo, est né à Eureka Colony au Mexique le 4 février 1862 et il est décédé à la Nouvelle-Orléans le 10 juillet 1922. Son frère, Augustin Lorenzo Tio Senior, né à Tampico au Mexique le 28 septembre 1867, est décédé à la Nouvelle-Orléans le 10 juin 1908. Tous les deux étaient issus d'une famille originaire de Louisiane ayant émigré au Mexique. Lorenzo Tio Senior reçoit ses premières leçons de son frère aîné, Papa Tio, avant que la famille ne revienne s'installer à la Nouvelle-Orléans. À partir du milieu des années 1880 et dans les années 1890, il joue de la clarinette en mi bémol, qui est un modèle plus petit que la clarinette habituelle, qui est en si bémol. Ça, c'est pour les spécialistes. Il est membre de l'Excelsior Brass Band et en 1889 du Lear Club Symphony Orchestra. Vers 1900, il tourne avec une troupe de minstrels, une sorte de comédien ambulant qui faisait des tournées à travers le sud des États-Unis. Il était réputé pour la pureté de sa sonorité et son influence comme professeur. Son fils, Lorenzo Anselmo Tio Jr., est né à la Nouvelle-Orléans le 21 avril 1893. Son père lui apprend à jouer de la clarinette et dès l'âge de 9 ans, il maîtrise suffisamment l'instrument pour jouer dans des orchestres de parade. À partir de 1910, il joue à l'occasion avec l'Olympia Orchestra du trompettiste Freddie Keppard et régulièrement avec l'Onward Brass Band. Dès cette époque, il commence à enseigner la clarinette et compte de prestigieux élèves que nous évoquerons plus loin d'ailleurs, Sidney Bechet, Barney Bigard, Albert Burbank, Johnny Dodds, Albert Nicolas, Jimmy Noon, Homer Simeon, Darnell Howard et bien d'autres. Pratiquement tous les grands clarinettistes de la Nouvelle-Orléans ont bénéficié de ses conseils. En 1912 et 1913, il travaille avec les trompettistes Freddie Keppard et Papa Celestin. Il passe ensuite 2 ans à Chicago, de 1916 à l'été 1918, notamment avec le trompettiste Manuel Pérez. En 1919, il devient membre du Armand Pirons Orchestra avec lequel il joue à New York. En 1930, il décide de s'établir à New York où il joue au Nest Club en 1932 et 1933. Et il est décédé le 24 décembre 1933. Il n'a enregistré que 2 ou 3 faces avec les chanteuses Esther Bijou et Eva Taylor, ainsi qu'avec Jelly Roll Morton. Malheureusement, nous ne possédons pas ces enregistrements. Un autre pionnier de la clarinette, Nouvelle-Orléans, c'est Georges Baquet. Georges Baquet est né à la Nouvelle-Orléans en 1883. Frère du clarinettiste Achille Joseph Baquet, 1886-1956, et de Harold Baquet, mort à New York des suites d'un coup de poignard en novembre 1931. À cette époque, c'était assez fréquent. Son père, Théogène Baquet, né à la Nouvelle-Orléans vers 1858 et décédé dans cette même ville vers 1920, était un clarinettiste réputé qui a dirigé l'Excelsior Brass Band de 1880 à 1904. Initié par son père, Georges débute à la clarinette en mi bémol dans la Lear Club Symphony Orchestra et il n'avait alors que 14 ans. De 1900 à 1908, il joue et tourne avec diverses formations puis commence à travailler régulièrement avec le trompettiste Freddie Keppard. Il le quitte en 1914 pour rejoindre le contrebassiste Bill Johnson à Los Angeles. Après plusieurs tournées, Il le quitte au printemps de 1917 pour travailler pendant plusieurs années au College Inn à Coney Island dans l'État de New York. En 1923, il se rend à Philadelphie et s'étant fixé dans cette ville, il y dirige ses propres groupements. Dans les années 20, il a enregistré avec la chanteuse Bessie Smith et en 1929 avec Jelly Roll Morton. Nous pouvons l'écouter avec les Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton dans Burning the Iceberg, enregistré en 1929. L'un des premiers clarinettistes importants est Alphonse Picot. Alphonse Picot est né à la Nouvelle-Orléans le 19 octobre 1878. Dès l'âge de 16 ans, il est un musicien accompli. À la fin des années 90, il joue régulièrement au sein du Lear Club, symphonie orchestra lui aussi, et travaille avec les cornettistes Oscar Ducongé et Manuel Pérez. Entre 1900 et 1915, il joue dans de nombreux orchestres de la Nouvelle-Orléans et devient membre fondateur du Papa Celestine's Tuxedo Orchestra. C'est à cette époque qu'il adapte pour la clarinette le solo de Piccolo de High Society, solo que tous les clarinettistes connaissent par cœur et jouent encore de nos jours dans chaque interprétation de ce standard. Il écrit plusieurs compositions pour l'orchestre de King Oliver, mais en 1932, il réduit son activité musicale et revient à son métier initial d'étameur. Cependant, à la faveur du New Orleans Revival, il enregistre quelques faces avec l'orchestre du trompettiste Kid Rena en 1940. Au cours des années 40, il ouvre un bar, le Picot's Bar and Restaurant, dans lequel il joue jusqu'à sa mort le 4 février 1961. Nous ne possédons pas d'enregistrement par lui-même sur High Society, Il existe une vidéo, par contre, où on le voit jouer ce fameux solo. Malheureusement, il est très âgé et ce n'est plus très en place. Mais nous allons écouter son fameux solo de clarinette interprété ici magnifiquement, d'abord par Sidney Bechet au soprano, suivi dans la même interprétation d'Albert Nicolas à la clarinette et dans une formation de Jolly Roll Morton qui comprenait Sidney de Paris à la trompette, Claude Jones au trombone et Zutty Singleton à la batterie. Donc voici enregistré à New York le 14 septembre 1939, High Society. Le premier des grands solistes de la clarinette Nouvelle-Orléans, c'est Johnny Dodds. Johnny Dodds est né à la Nouvelle-Orléans, lui, le 12 avril 1892. Issu d'une famille de 6 enfants, il est le frère aîné du batteur Baby Dodds. À 17 ans, il prend des leçons avec Lorenzo Tio Jr. et avec Charlie McCurdy. En 1912, il entre dans l'orchestre du tromboniste Kiddory, avec lequel il joue pendant 6 ans. Il effectue ensuite une tournée avec un show itinérant avant de rejouer avec Kiddory en 1919. Il se rend ensuite à Chicago où il rejoint l'orchestre du trompettiste King Oliver. Au début de 1924, il travaille avec le tromboniste Honoré Dutré, puis au printemps rejoint le trompettiste Freddie Keppard au Bert Kelly's Stables et devient le leader de cet orchestre pendant 6 ans. Au cours de cette période, il effectue de nombreux enregistrements dans les fameux Hot 5 et Hot 7 de Louis Armstrong, ainsi qu'avec Jelly Roll Morton ou sous son propre nom. Au début des années 30, il ralentit son activité musicale et en 1938, il effectue son unique voyage à New York et en mai 1939, il a une sévère crise cardiaque qui le force à l'inactivité jusqu'au 20 janvier 1940 où il recommence à jouer avec son quartet pour des engagements de courte durée et se consacre à la gestion d'un immeuble qu'il possédait à Chicago. Malheureusement, il est décédé quelques mois plus tard, le 8 août 1940. Son jeu avait beaucoup de mordant avec un vibrato très marqué qui a formé l'un des deux modèles de style Nouvelle-Orléans de la clarinette. nous écoutons Johnny Dodds accompagné par le pianiste Charlie Alexander et le contrebassiste Bill Johnson dans Blue Piano Stomp de 1928. Pour illustrer également le jeu de Johnny Dodds en orchestre, nous l'écoutons avec le Hot Seven de Louis Armstrong. Le trombone ici est John Thomas. Voici Weary Blues, enregistré en 1927.
Thank you.
L'autre style de clarinette Nouvelle-Orléans, plus fluide, à la sonorité plus tendre, est dû à son cadet de 3 ans, Jimmy Noon Senior. Jimmy Noon Senior est né à Cut Off, Louisiane, le 23 avril 1895. Vers la fin de 1910, il s'installe avec sa famille à la Nouvelle-Orléans et commence à apprendre la clarinette en prenant des leçons avec Sidney Bechet, qui était plus jeune que lui. Il obtient son premier travail en 1913 dans l'orchestre du trompettiste Freddie Keppard, en remplacement de Sidney Bechet. Il forme ensuite avec le trompettiste Buddy Petit le Young Olympia Band et joue aussi avec Kidori et avec Papa Célestin. En 1916 et 1917, il dirige son propre trio pour les saisons d'été et à la fin de 1917 se rend à Chicago pour rejoindre Freddie Keppard en résidence au Logan Square Theatre. Au printemps de 1918, il retourne brièvement à la Nouvelle-Orléans, puis revient à Chicago à l'automne de cette même année pour rejoindre la formation de King Oliver au Royal Gardens. Il y reste jusqu'à l'été 1920, puis entre dans l'orchestre de Doc Cook, où il joue de la clarinette et du saxophone soprano jusqu'à l'automne 1926. Il doublait pendant les fins de nuit avec son petit groupement dans divers clubs, dont le Nest Club. À l'automne de 1926, ce club devient l'Apex Club. Il quitte alors Doc Cook pour y diriger l'orchestre maison jusqu'à sa fermeture au printemps de 1928. Il enregistre dès 1923 avec la formation du batteur Ollie Powers, puis avec King Oliver et avec Doc Cook, et enfin avec son orchestre de l'Apex Club. Dans cet orchestre, il n'y avait pas de trompette. C'est Joe Doc Poston au saxo alto qui jouait la partie mélodique habituellement attribuée aux trompettistes. Et il y avait également le grand Earlines au piano. De 1928 à 1931, il continue à diriger diverses formations dans des clubs et le 31 mai 1931 commence une résidence d'un mois au Savoy Ballroom de New York, puis retourne à Chicago. Il revient à New York au début de 1935 et forme un orchestre avec le contrebassiste Wellman Broad. De nouveau à Chicago, il dirige un nouvel orchestre en 1937 et 1938. Par la suite, il continue à diriger diverses formations et quitte Chicago pour une résidence à Omaha, dans le Nebraska, puis à San Antonio, au Texas, en mai-juin 1943. En août 1943, il se rend en Californie pour une nouvelle résidence à Hollywood. Et là, il joue et enregistre pour la radio avec l'orchestre de Kidori, tout en continuant à diriger son propre orchestre. En 1944, il joue dans le film « Blockbusters » et meurt d'une crise cardiaque chez lui à Los Angeles le 19 avril 1944. Voici donc par Jimmy Noon and his Apex Club Orchestra, I Know That You Know, 1928. Thank you. bien toujours par la même formation de Jimmy Noon avec son orchestre de l'Apex Club. Voici Apex Blues de la même année, 1928. Jimmy Noon a eu de nombreux disciples, Barney Bigard, Albert Nicolas, Darnell Howard, entre autres, mais certains comme Buster Bailey ou Homer Simon se sont inspirés des deux styles, Johnny Dodds et Jimmy Noon. Le troisième grand clarinettiste, bien qu'il soit plus connu comme saxophoniste soprano, c'est Sidney Bechet. Sidney Bechet est né à la Nouvelle-Orléans le 14 mai 1897 dans une famille de musiciens. Très jeune, il s'empare d'une clarinette et prend quelques leçons avec Lorenzo Tio Jr. et Georges Baquet, mais demeure quasiment autodidacte. Il commence à jouer avec divers orchestres dès l'âge de 12 ans, puis travaille en freelance avec le pianiste Richard M. Jones, le trompettiste Freddie Keppard et d'autres. Il quitte la Nouvelle-Orléans en 1916 pour suivre un show itinérant avec le pianiste Louis Wade. Tous les deux quittent le show au Texas pour suivre une tournée de carnaval. Pendant 2 mois, il revient de temps en temps à la Nouvelle-Orléans et joue souvent avec King Oliver. À l'été 1917, il quitte la Nouvelle-Orléans pour jouer avec le Bruce and Bruce Touring Company en Géorgie, Alabama, Ohio, Indiana. Il quitte la compagnie à Chicago à la fin de 1917 et là, il joue avec diverses formations. Et c'est à cette époque qu'il achète son premier saxophone soprano, le modèle courbe qui ressemble à un petit saxophone alto. Mais il abandonne rapidement après quelques essais, ça ne le satisfait pas. Il rejoint alors la formation de Will Marion Cook avec lequel il se rend à New York. En juin 1919, il fait un voyage en Europe avec cette formation et c'est à Londres qu'il achète son premier modèle de saxophone soprano droit. Et peu après, il l'utilise pour ses prestations. Au printemps de 1920, il est à Paris pour des engagements, puis revient jouer à Londres en résidence avec les Benny Patton's Jazz Kings. C'est là qu'il est remarqué par le chef d'orchestre symphonique suisse Ernest Ansermé, qui écrit un article le décrivant comme un extraordinaire virtuose de la clarinette et un artiste de génie. En juin 1920, il est à Bruxelles, et c'est à cette époque qu'il délaisse la clarinette au profit du soprano droit, n'utilisant la clarinette que pour quelques enregistrements. De retour à New York vers la fin de 1921, il est engagé dans un show et après une tournée au printemps 1923, il accompagne la chanteuse Mamie Smith, puis tourne avec la Black and White Revue et le 7-Eleven Show au printemps de 1925. De retour à New York, il joue quelque temps avec Duke Ellington et avec le pianiste James P. Johnson. Il dirige ensuite sa propre formation et ouvre un club à New York. En septembre 1925, il s'embarque à nouveau pour l'Europe avec la Revue Nègre, dont la vedette est la chanteuse et danseuse Josephine Baker. Au début de 1926, il quitte le show et de février à mars effectue une tournée en Russie. Il revient ensuite à Berlin, où il dirige une petite formation, et peu après organise un nouvel orchestre pour une nouvelle tournée de la Revue Nègre. L'orchestre est dissous à Munich en 1927. Il revient à Paris au cours de l'été 1928 et en janvier 1929 joue brièvement. Puis il est emprisonné à Paris pour 11 mois à la suite d'une bagarre à coups de revolver avec le banjoïste Mike McKendrick. Libéré en décembre 1929, il se rend à Berlin, puis tourne de nouveau avec la Revue Nègre et quitte le show à Amsterdam pour rentrer à New York. Au début de 1931, il rejoint l'orchestre du chanteur Noble Cecil, puis le quitte pour effectuer une tournée avec Duke Ellington en mai 1932. C'est alors qu'il crée avec le trompettiste Tommy Ladner New Orleans Fitwarmers, une petite formation qui a laissé une belle série d'enregistrements. Le groupement est dissous au début de 1933. Il travaille alors avec Lorenzo Trio Jr. au Nest Club avant de rejoindre le pianiste Willie the Lion Smith. Les affaires devenant difficiles, il abandonne la musique pendant quelque temps et ouvre avec le trompettiste Tommy Ladner une boutique de tailleur. En 1934, il reprend son soprano et rejoint Noble Cecil à Chicago, orchestre avec lequel il reste jusqu'en 1938. Il dirige ensuite un orchestre avec le batteur Zooty Singleton à New York, puis commence à enregistrer abondamment, jouant dans divers clubs. Vers le milieu des années 40, il participe au fameux enregistrement de la marque King Jazz avec Milton Mesmero. Il enregistre régulièrement à New York et dirige un trio avec le pianiste Lloyd Phillips et le batteur Freddie Moore. En 1949, il se rend en France, jouant en alternance avec l'orchestre de Claude Luther et celui d'André Revalliotti. Installé en France, il devient une immense vedette jusqu'à sa mort le 14 mai 1959, jour de son anniversaire. Nous l'écoutons donc à la clarinette, entouré d'Orlines au piano et de Baby Dots à la batterie, dans Blues in Search, 1940. Thank you. Le voici maintenant, entouré de Teddy Bunn à la guitare, Pops Foster à la contrebasse et Sidney Catlett à la batterie dans Bechet's Steady Rider, 1940. Voici enfin entouré de Sidney de Paris à la trompette, Sandy Williams au trombone, Cliff Jackson au piano, Bernard Addison à la guitare, One Man Broad à la basse et Sidney Catlett à la batterie dans Wild Man Blues, toujours de 1940.
Thank you.
Un autre grand de la clarinette Nouvelle-Orléans, c'est Darnell Howard. Darnell Howard est né à Chicago le 25 juillet 1895. Cette année n'est pas absolument certaine, car elle varie selon les sources. À sa mort, il est dit être âgé de 74 ans, ce qu'il ferait naître en 1892. Cependant, il déclarait à l'organisme de sécurité sociale être né en 1901. Toutefois, si l'on tient compte de son inscription à l'Union des musiciens en 1912, l'année 1895 semble être la plus vraisemblable. Son père, Sam Howard, jouait du violon, du cornet et du piano. Sa mère jouait également du piano. Il commence par apprendre le violon à l'âge de 7 ans, prenant des leçons avec le saxo-clarinettiste Charlie Elgar. Et en 1912, il joue 6 semaines avec le pianiste Clarence Jones au Panorama Théâtre de Chicago, tout en terminant ses études à l'université. Il obtient en 1913 son premier travail professionnel avec le Joan Whitecliffe's Ginger Orchestra. Et en 1916, il joue au Lamb's Café. Et en 17, se rend à New York avec l'orchestre de W.C. Handy pour y faire ses premiers enregistrements au violon en septembre. De retour à Chicago, il dirige son propre orchestre et se met entre-temps à jouer de la clarinette et des saxophones alto et soprano. En 1921, il tourne dans le Middle West avec Charlie Elgar, puis rejoint la formation du pianiste James P. Johnson pour un bref voyage à Londres de mars à mai 1923. De retour aux USA, il entre dans la formation de Carol Dickerson, puis rejoint les Dixie Syncopators de King Oliver. Dans cet orchestre, il joue de l'alto, du soprano, de la clarinette et du violon. Son jeu de violon était fortement influencé par Eddie South. À la clarinette, il est sous l'influence de Jimmy Noon et développe une sonorité chaude qui le rend célèbre. Il quitte ensuite les États-Unis avec les New York Singing Syncopators. L'orchestre est basé à Shanghai, mais tourne aux Philippines et au Japon d'octobre 1925 à juin 1926. Rentré aux États-Unis, il rejoint à nouveau King Oliver en juillet 1926 et double dans l'orchestre d'Erskine Tet au Vendôme Theatre jusqu'en octobre 1927. Fin 1927, il joue avec Carol Dickerson et à partir de l'été suivant, dirige son propre quartet au Club Ambassadeur de Chicago. Au début de 1931, il tourne avec le Jerome Carrington's Orchestra, puis entre dans le grand orchestre d'Orleans avec lequel il joue jusqu'en 1937 de l'alto, de la clarinette et parfois du violon. À l'automne 1937, il est dans l'orchestre du pianiste Horace Anderson, puis dans celui de son frère Fletcher Anderson de l'automne 1938 à juin 1939. Par la suite, il dirige son propre groupe dans divers clubs avant de rejouer brièvement avec Fletcher Anderson. Au printemps 1941, il est dans le grand orchestre de Coleman Hawkins qui a une courte existence. Il délaisse ensuite la musique pour travailler dans un laboratoire industriel, tient un studio de photographie ou répare des postes de radio dans son propre magasin. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y avait la crise. De 1943 à 1945, il dirige à nouveau ses propres groupes à Chicago et d'août à octobre 1945, joue en Californie dans l'orchestre de Kidori. De retour à Chicago, il joue sous la direction de divers leaders. À la fin de 1948, il retourne en Californie pour rejoindre l'orchestre du trompettiste Muggsy Spanier, avec lequel il joue jusqu'au printemps de 1953. Début 1954, il est dans l'orchestre du tromboniste James Archer, puis de 1955 à 1962, travaille dans la petite formation d'Airlines. Remis d'une sérieuse maladie en 1962, il dirige à nouveau divers petits groupements et joue avec le banjoiste Elmer Snowden. En 1966, il tourne en Europe avec les New Orleans All Stars, mais doit rentrer aux États-Unis pour être hospitalisé. Il quitte l'hôpital, mais en juin, il est frappé par une attaque qui met fin à sa carrière. Il est décédé à San Francisco, en Californie, le 2 septembre 1966, d'une tumeur au cerveau. Nous l'écoutons avec l'orchestre de Kidori, comprenant Mutt Carey à la trompette, Buster Wilson au piano, Bud Scott à la guitare, Ed Garland à la basse et Minor Hall à la batterie. On peut admirer ici le jeu de Darnell Howard aussi bien dans le contrepoint pendant l'exposé du thème que son très beau solo et sa partie dans la collective finale. Voici Original Dixieland One Step de 1945. Thank you. Voici maintenant un quartet accompagné par le pianiste Don Ewell, le contrebassiste Pat Foster et le batteur Minor Hall. Voici Blows My Naughty Sweetie Gives to Me, 1957.
Thank you.
Un autre grand clarinettiste que nous avons eu la chance d'entendre assez souvent, car il a résidé en France pendant longtemps, c'est Albert Nicolas. Albert Nicolas est né à la Nouvelle-Orléans le 27 mai 1900. Son oncle jouait du cornet et de la clarinette. Il commence à jouer de la clarinette à l'âge de 10 ans et à 14 ans prend des leçons lui aussi avec Lorenzo Tio Senior, puis avec Lorenzo Tio Junior. Peu après, il joue pour des petits engagements avec les trompettistes Buddy Petit, Joe Oliver, qui n'avait pas encore son titre de King, et avec Manuel Pérez. Il sert ensuite dans la marine marchande de novembre 1916 à décembre 1919. Son engagement dans la marine terminé, il joue dans l'orchestre d'Oak Gaspard, puis rejoint celui du batteur Arnold Dupas. À partir du printemps de 1922, il joue avec Manuel Pérez. Au début de 1923, il dirige une petite formation de 6 musiciens comprenant Barney Bigard au saxo et à la clarinette, le pianiste Louis Russell et le batteur Paul Barbaran. En mai 1924, il rejoint l'orchestre de King Oliver pour une tournée de 7 semaines en remplacement de Buster Bailey. De retour à la Nouvelle-Orléans, il reprend la direction de son groupement puis rejoint de nouveau King Oliver à Chicago en décembre 1924. Il quitte la formation en août 1926 pour jouer en Chine avec l'orchestre du batteur Jack Carter à Shanghai. Là, il joue avec la trompettiste Valaita Snow et le pianiste Teddy Weathersford. Il quitte l'orchestre en décembre 1927 et se rend en Égypte où il travaille avec l'orchestre de Guido Curti au Caire et à Alexandrie. Il se rend ensuite à Paris où il joue brièvement dans une revue au théâtre de la Porte Saint-Martin. Il rentre ensuite aux États-Unis le 9 novembre 1928 et à la fin novembre de cette année, il entre dans l'orchestre de Louis Russell avec lequel il joue et enregistre jusqu'en décembre 1933. Il est ensuite pendant 6 mois dans l'orchestre de Chick Webb, puis pendant 5 mois dans celui de Sam Hooding. À la fin de 1934, il est à New York, où, après une courte interruption de sa carrière, il travaille avec le guitariste Bernard Addison et avec le quartet du contrebassiste John Kirby en 1935. Au printemps de 1937, il entre dans l'orchestre de Louis Armstrong, que dirige Louis Russell, et y demeure jusqu'au printemps de 1939. Après quelques engagements, il joue dans la formation du batteur Zotie Singleton de décembre 1939 à octobre 1940. Au cours de l'été 1941, il remplace Buster Bailey qui s'était blessé à la main dans le sextet de John Kirby. À la fin de 1941, il délaisse la musique et travaille dans le métro, puis dans les services du FBI à Washington. Cependant, s'ennuyant de sa musique, il résilie son contrat dès qu'il le peut. De retour à New York, à la fin de 1945, il travaille avec le pianiste Art Oates et joue aussi dans la formation du trompettiste Bunk Johnson pour 3 engagements. En février 1946, il rejoint l'orchestre de Kidori en Californie et revient à New York en septembre pour jouer au Jimmy Ryan's. De janvier à août 1947, il est membre de l'orchestre du radio show This is Jazz. Au début de 1948, il forme un trio avec le pianiste Ralph Sutton et le batteur Arthur Trappier. De 1949 à 1953, il dirige divers groupes à Los Angeles et après 6 semaines, avec le trompettiste Rex Stewart, il se rend en France en 1953 et à partir de cette date s'installe en Europe où il effectue de nombreuses tournées. En 1957, il se produit au second festival de jazz en Pologne et enregistre en février 1958 à Zurich avec le pianiste Joe Turner. En juillet de la même année, il joue avec le All Stars du trompettiste Teddy Buckner dans les festivals de Knock en Belgique et de Cannes en France. Il revient jouer aux USA en 1959 et en 1960, mais de retour en Europe, il enregistre avec le pianiste suisse Henri Schex. Fin 1969 et début 1970, il revient en visite à la Nouvelle-Orléans, puis rentre en Europe, où il continue à jouer régulièrement jusqu'à sa mort à Bâle le 3 septembre 1973. Nous l'écoutons entouré de Guy Lognon à la trompette, Claude Gousset au trombone, Claude Bolling au piano, Roland Bianchini à la contrebasse et Kansas Fields à la batterie dans Blues for Kicks 1955.
Thank you.
terminerons cette première émission consacrée aux clarinettistes de la Nouvelle-Orléans, toujours avec Albert Nicolas, qui joue ici en trio, accompagné par Claude Bolling au piano et Kansas Field à la batterie, dans Wolverine Blues 1955. Ainsi que se termine alors la première des deux émissions.
Oui, il y aura une seconde émission.
Sur les clarinettes. Et alors, la vraie clarinette, c'est celle de...
Ben oui, c'est la clarinette Nouvelle-Orléans qui est le vrai style de jazz pour la clarinette. Parce qu'après, comme on le verra dans la seconde émission même, après peut-être on en parlera un petit peu, mais les clarinettistes qui sont venus par la suite, surtout dans les grands orchestres, ils étaient plus avec une sonorité qui se rapproche de la clarinette classique comme on l'entend dans les orchestres symphoniques.
Alors que là, c'est vrai que le son, il est...
Et voilà, c'est ce son qui ça sent le bois de l'instrument, n'est-ce pas? Et puis donc, ils emploient beaucoup de vibrato, ils emploient tous ces sons qui sont vraiment très agréables à l'oreille, alors que la clarinette classique est un son plus froid. Voilà, on verra ça la semaine prochaine.
C'était
C'était Swingtime 2016. Cette émission a été proposée par Jacques Ribière, qu'on retrouvera donc pour la deuxième partie la semaine prochaine. Au revoir Jacques.
Au revoir Martin.